le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Didier Crouzet. Il est le secrétaire général de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Ce matin, Jésus recrute des disciples. Qui seront les heureux gagnants? À quelles conditions, mais surtout, à quel prix? Trois candidats, trois disciples. C'est le titre de la méditation du pasteur Didier Crouzet.
Bonjour, je vous emmène sur les pas de Jésus. Il marche vers Jérusalem. Il nous accueille comme nous sommes, là où nous en sommes. Il accueille chacun et chacune avec ses secrets, avec ses blessures, avec ses hontes, avec ses attentes, avec ses joies. Il vous accueille, vous qui découvrez l'émission. Il vous accueille, vous qui nous écoutez régulièrement. À tous, il dit « La paix soit avec vous ».
Accueillis par Dieu, nous l'accueillons à notre tour. Seigneur, je m'éveille et déjà les cris de la terre me rejoignent. Déjà les blessures se ravivent. Déjà je me replie et me protège dans mes silences, mes habitudes, ma solitude. Seigneur, je m'éveille et déjà les soucis m'assaillent. Déjà la fatigue m'envahit à la pensée de tout ce qui m'attend. Seigneur, je m'éveille et tu es encore là pour ouvrir mes yeux sur le monde, pour apaiser mes craintes et me donner confiance, et pour me faire confiance. Seigneur, je m'éveille, et toujours ta parole me réveille, qui me redit ta présence au cœur de mes fragilités, qui trace à mes pas chancelants un chemin d'espérance. Seigneur, je m'éveille, et déjà ton regard est sur moi qui me tourne vers toi, qui libère mon corps et mon cœur engourdis pour accueillir ta grâce et élargir ma vie. Seigneur, merci d'être là. Amen.
Présentons nos vies au Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que nous sommes indignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons suivi d'autres chemins que le tien. Nous avons servi d'autres maîtres et adoré bien des idoles. Nous nous sommes mis à genoux pour réclamer une santé meilleure, un esprit plus brillant, un corps mieux fait, une instruction plus haute, un agenda moins chargé, des revenus plus élevés, une carrière plus glorieuse. Et toutes ces préoccupations ont pris la première place dans nos vies. Toujours plus, toujours mieux, toujours moi. Tel est en vérité notre Dieu. Oui, nous le confessons, nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous. Amen. Mais Dieu vient lui-même combler la distance qui nous sépare de lui. Avant que vous ne le sachiez, Dieu le premier s'est approché de vous. Avant que vous ne vous tourniez vers lui, il s'est mis en route à votre rencontre. Avant que la moindre parole ne sorte de votre bouche, il a déjà entendu votre prière. Il vous pardonne parce qu'il est le Seigneur de la grâce. Et voici la vie que Dieu nous invite à vivre. Avec Jésus, le plus grand n'est pas celui qui commande. Le plus grand n'est pas celui qui connaît les réponses. Le plus grand n'est pas celui qu'on admire. Le plus grand n'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent. Avec Jésus, on est grand à la hauteur de l'amour donné, des services rendus, des biens partagés. Amen.
D'ouvrir la Bible, j'entends une voix. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour, voilée, qui pourtant parvient distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres un sourire. Elle traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Ne l'entendez-vous pas ? Seigneur, que ton esprit ouvre nos cœurs et nos intelligences à cette parole qui est la tienne. Amen.
Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62.
Ils sont en route, et quelqu'un vient dire à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras !» Jésus lui répond : « Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Jésus dit à quelqu'un d'autre : « Suis-moi !» Mais l'homme répond : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus : « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit : celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu.
Ce récit, c'est l'histoire de trois disciples qui voulaient suivre Jésus. Depuis quelques mois, Jésus marche de village en village. Il voit des gens malheureux, des sans-abri, des ouvriers qui gagnent une misère, de riches propriétaires qui les exploitent. Il voit des femmes méprisées par les hommes, des malades que personne ne soigne. Il veut changer les choses. Il proclame qu'un monde nouveau est possible. Un monde basé sur l'amour, le partage, la justice, la solidarité, le don. Un monde où être est plus important qu'avoir. Ce monde, Jésus l'appelle le royaume de Dieu. Ce monde est celui que Dieu veut pour les humains. Car Dieu n'aime pas l'injustice et la misère. Dieu n'aime pas que les plus forts écrasent les plus faibles. Dieu n'aime pas que la loi de l'argent domine. Dieu aime les petits, les fragiles, ceux qui partagent, ceux qui sont attentifs à leurs semblables. Jésus proclame cela partout où il passe. Les gens qui l'écoutent sont subjugués. Ils en rêvent de ce monde-là. Le royaume de Dieu, ils veulent en être. Alors que Jésus marche d'un village à l'autre, quelques-uns de ceux qu'il croise décident de le suivre, de devenir un de ses disciples. Le premier est tout feu tout flamme. « Je te suivrai partout où tu iras. » « Pas si facile, » lui répond Jésus, « car je n'ai pas de maison. Je suis sans domicile fixe. Je dors à la belle étoile, dans une étable, parfois dans une maison si on m'invite. Je suis un nomade, un déraciné. Je suis moins bien loti qu'un animal qui, lui, a un nid, un terrier, un abri. Moi, je n'ai rien à moi. Si tu veux partir avec moi, tu dois t'attendre à vivre une vie sans protection matérielle. Es-tu prêt à cela ? Pourquoi une telle exigence ? Jésus sait bien que chacun a besoin pour vivre d'un toit, de nourriture, de vêtements. Mais il sait aussi que sans relation, la vie n'a aucun sens. Sans partage, la loi du plus fort domine. Il sait que la richesse enferme dans une logique de protection des biens, de défense des privilèges. Comment un disciple pourrait-il défendre le projet d'un monde plus juste et plus fraternel si lui-même est incapable de partager ? Comment pourrait-il annoncer de façon crédible l'avènement du royaume de Dieu s'il n'est pas capable de quitter son confort matériel ? Jésus va même plus loin. Il insiste sur la nécessité de quitter le cocon maternel pour devenir disciple. Car quoi de plus semblable à un nid d'oiseau que les bras d'une mère ? Le terrier du renard ne serait-il pas l'image du foyer familial ? Jésus indique ainsi la condition du disciple. Il est celui qui perd tout refuge, la sécurité d'un nid, la protection maternelle, et qui apprend à ne compter que sur Dieu et sur le Christ. Le deuxième disciple potentiel n'est en fait pas candidat, contrairement au premier. C'est Jésus qui l'interpelle. « Suis-moi !» L'interpellé ne dit pas non, mais cet appel de Jésus vient au mauvais moment. Il vient de perdre son père et il doit accomplir les rites de deuil habituels. Une fois l'enterrement fini, il sera libre pour suivre Jésus. La réponse de Jésus arrive, cinglante. « Laisse les morts enterrer leurs morts !» Quelle réplique ! Sans doute une des plus difficiles à entendre de toute la Bible. Et à bien la relire, une des plus incompréhensibles. Comment un mort pourrait-il, pratiquement, manier la pelle et creuser une tombe ? Deux mots du récit offrent une clé de compréhension. D'abord, le mot « d'abord ».« Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Jésus aurait-il réagi de la même façon si l'homme lui avait dit « j'enterre mon père et j'arrive ». Je ne sais pas. Mais je note que Jésus oppose « enterrer les morts » à « annoncer le royaume ».« Laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume de Dieu ». Il y a là une question de priorité. D'abord, le mot « d'abord » marque que pour l'homme, l'urgence est d'accomplir les rites funéraires. La réplique de Jésus indique que, pour lui, l'urgence est de proclamer le monde nouveau. Par cette cinglante réplique, Jésus alerte le candidat disciple sur ses priorités de vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? T'occuper des morts ou annoncer la vie ? Où est le sens de ton existence ? Rester confiné dans le passé ou te tourner résolument vers l'avenir ? Pour Jésus, il ne s'agit pas d'abandonner les endeuillés à leur triste sort ou de se défausser des tâches que les enfants doivent à leurs parents. Il s'agit de privilégier la vie. On sait bien que l'on peut vivre un deuil en restant enfermé dans le souvenir, la nostalgie et le regret. On peut aussi vivre un deuil dans la reconnaissance de ce que la vie perdue a donné et en faire une nourriture pour la vie à venir. On connaît des vivants qui respirent la mort et des morts qui inspirent les vivants. Entre la vie et la mort, il faut choisir. Jésus choisit la vie et encourage ses disciples à faire de même. Mais pour choisir la vie, encore faut-il se débarrasser des oripeaux de la mort, je veux dire du décorum qui entoure la mort. Ce que Jésus dénonce ici, ce sont les rites obligatoires, la religion du devoir. Il critique l'observance de la loi religieuse et des traditions. Jésus connaît les usages. Il sait que celui qui n'honore pas les morts se coupe de son environnement familial et s'exclut lui-même du corps social. Il a bien conscience que sa réplique va provoquer un grand malaise. Mais c'est ce qu'il cherche. Il veut faire réfléchir au sens de ses pratiques ancestrales. Il est venu annoncer une ère de liberté. Ce n'est pas pour laisser perdurer des obligations religieuses. Que chacun gère son deuil comme il l'entend, mais que personne ne se sente obligé par convenance ou par tradition de faire comme si. Candidat disciple, es-tu prêt à faire le tri dans ta pratique religieuse et à établir des priorités dans ta vie? Si oui, toi, suis-moi. Toi, voilà le deuxième mot-clé. Même si nos trois candidats disciples ne sont pas nommés, ils sont pourtant des personnes à part entière. C'est ce que marque ce « toi » qui suit immédiatement la réplique de Jésus. « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le royaume de Dieu. » C'est bien à une personne que Jésus s'adresse, à une personne avec son identité propre. « Toi, c'est quelqu'un d'unique, c'est celui à qui je parle, avec qui j'entre en relation. » Bien sûr, ce candidat disciple a une histoire, il est né quelque part, il a des parents, un père qui vient de mourir. Mais ce n'est pas cela qui détermine son existence. Le sens de sa vie, c'est ce que Jésus lui propose. Le suivre pour annoncer le royaume. L'anonyme qui se croyait obligé d'accomplir tristement un rite obligatoire découvre la liberté du disciple, libre de s'engager au service d'une mission enthousiasmante. En s'adressant à cet homme ainsi, « Toi », Jésus le libère d'une histoire familiale potentiellement étouffante pour le propulser au rang d'une personne actrice de sa vie. En un mot, l'anonyme n'est plus fils de son père qu'il doit enterrer, mais disciple de Jésus. Les liens familiaux restent à leur juste place et n'entravent pas l'autonomie. Jésus rappelle ici une vérité. Pour grandir et faire des choix libres, pour vivre pleinement une vie d'adulte, il faut quitter son père, de la même manière qu'était suggéré au premier candidat disciple de renoncer à une relation trop maternante avec sa mère. Rejoignons maintenant le troisième candidat disciple. Là encore, nous sommes au milieu d'une affaire de famille. Les parallèles sont nombreux avec le précédent dialogue. D'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. Jésus pourrait faire le même type de réponse qu'au deuxième candidat. Laisse-la ta famille et va annoncer le royaume de Dieu. Mais Jésus réplique, celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Pourquoi cette accusation d'incompétence? Revenons au texte. Avant de demander à Jésus la permission d'aller dire adieu à sa famille, le troisième candidat disciple a ces mots « Seigneur, je vais te suivre ». Contrairement au deuxième, il a déjà pris sa décision. Il est sur les starting blocks, il prend son élan, il est quasiment parti, ses pas dans ceux de Jésus, les yeux rivés sur l'horizon du royaume. Et au dernier moment, il s'arrête et repart en arrière. Mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. On peut comprendre cette attitude. L'homme va partir pour l'inconnu, il marche vers un avenir incertain, il ne reverra peut-être jamais sa famille. C'est la moindre des choses que de marquer le coup par des adieux appuyés, Pourtant, Jésus lui en fait le reproche, et lourdement. Pas capable de travailler pour le royaume de Dieu, pas bon, d'aucune utilité, pas fait pour ça, pas adapté. Pour s'expliquer, Jésus prend l'exemple du travail agricole. Un laboureur qui s'est mis au travail, les mains sur la charrue, ne s'arrête pas juste après avoir commencé. Au contraire, il garde les yeux fixés sur son outil pour faire un sillon bien droit. Un agriculteur qui conduit son tracteur regarde devant lui, au risque d'avoir un accident. J'imagine qu'aujourd'hui, Jésus dirait « Quiconque se met au volant de sa voiture et démarre en regardant sans arrêt le rétroviseur, celui-là n'est pas fait pour conduire sa vie sur la route du Nouveau Monde. » Ce que Jésus reproche à ce candidat disciple, ce n'est pas qu'il aille saluer sa famille, c'est qu'il fasse un pas en arrière après avoir fait un pas en avant. C'est qu'il se détourne de son objectif. Il a le droit de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'hésiter, de se préparer. Mais une fois la décision prise de suivre Jésus, il faut y aller. On ne revient pas en arrière, on garde le cap, on reste concentré sur l'objectif, on ne détourne pas son attention. Celui qui regarde en arrière oublie ce qui reste à faire. Il creuse mal son sillon, il ne va pas droit au but. Que valent une intention sans action? Une action qui s'interrompt. Les candidats velléitaires, les distraits, les dilettantes ne sont d'aucune utilité pour faire avancer le royaume de Dieu. Jésus critique ici les regrets et les retours en arrière. Il fait l'éloge de la concentration pour atteindre le but. Il stimule le candidat disciple à s'engager dans un projet qui le requiert tout entier, corps et âme. Quelle conclusion tirer du parcours de ces trois candidats disciples? Ce que Jésus leur dit est à première vue insupportable et révoltant. N'avons-nous pas besoin de nous reposer? N'avons-nous pas le droit de veiller sur nos morts? Pouvons-nous abandonner notre conjoint, nos enfants, nos amis? Jésus ne répond pas à ces interrogations. Il aborde une seule et même question. À quelle relation au Christ et donc à Dieu sommes-nous appelés? À travers des images et des répliques provocatrices, Jésus donne des éléments de réponse. Il dit en substance à celui qui veut le suivre, « Avec moi, tu vivras dans l'insécurité matérielle, mais dans la confiance et l'espérance. Avec moi, tu seras un adulte autonome, libéré des pesanteurs familiales et des hérédités mortifères. Avec moi, tu sauras où tu vas. Ton existence aura un sens. Avec moi, tu vivras une aventure exaltante, difficile, rude, mais passionnante. Avec moi, tu bâtiras les fondations d'un nouveau monde. Avec moi, tu sèmeras les graines de la fraternité. Avec moi, tu vivras libre. Avec moi, tu auras envie de vivre. Et dans cette vie âpre, exigeante, parfois pénible que je te propose, tu trouveras des moments de joie et de bonheur intense, des moments de grâce et d'éternité. Tu verras germer des pousses de fraternité. Dans cette histoire des trois candidats disciples, il n'est pas beaucoup question de joie, c'est vrai. Mais Jésus ne peut pas tout dire en quelques phrases. Il insiste ici sur les conditions nécessaires pour le suivre. Au cours de son périple, de village en village, il aura d'autres occasions d'évoquer la joie d'être disciple. Par exemple au chapitre 10 de l'évangile de Luc. Mais ceci est une autre histoire. Amen.
Prions les uns pour les autres. Dieu, notre Père, nous t'en supplions. Entends les cris de douleur qui de toutes parts montent de la terre vers toi. là où, insidieusement, la maladie fait son œuvre, là où frappe la mort et sonne l'heure du deuil, là où se lèvent des vents de haine et de violence, là où les bouches sont bâillonnées et des corps suppliciés, là où des pleurs d'enfants laissés à l'abandon déchirent la nuit, là où des femmes violées portent le poids de l'humiliation et de l'opprobre, là où les éléments déchaînés ravagent les villes et les campagnes. Père éternel, prends pitié de tous ceux dont la plaie est à vif, nous te les confions. Aide-nous à ne pas rester indifférents à leurs souffrances et à être entre tes mains et selon nos moyens des instruments de guérison. Oui, nous voulons intercéder pour ne pas rester les bras croisés et les mains jointes, mais pour mettre nos bras en travers du malheur et ouvrir nos mains afin d'être des témoins d'espérance. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, en qui tu as donné au monde le grand signal du renouvellement de ta création.
Nous faisons monter vers toi la prière qu'il a confiée à ses disciples.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Tout au long de cette émission, nous avons cheminé sur les pas de Jésus. Si vous choisissez de poursuivre la route avec lui, peut-être ferez-vous vôtre cette déclaration d'un candidat disciple. Aujourd'hui, Seigneur, je te suis sur le sentier broussailleux où il faut partager, alors que je préférerais garder mes richesses pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je te suis sur le sentier fatigant des services à rendre, alors que je traînerais volontiers sur la large route de l'indifférence et de la paresse. Aujourd'hui, Seigneur, je te suis sur le chemin détrempé où l'on fait le premier pas vers les autres, alors que j'aimerais rester bien au chaud dans ma tranquillité. Je te suis, Seigneur, chaque jour, sur tous les sentiers, car c'est ainsi qu'autour de moi naissent le rire, l'amitié, la joie. C'est ainsi que dans ma vie et dans le monde, ton royaume apparaît. Le Seigneur vous bénit et vous garde aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Trois candidats, trois disciples. C'était le thème de la méditation du pasteur Didier Crouzet. Le pasteur Crouzet est le secrétaire général de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Anna Holweck, à la prise de son Alain Joubert. Lecture Marie-Jo Alvarez. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation et télécharger le texte? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.